I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous êtes testé, vous êtes vacciné, vous êtes prêt pour les terrasses, les musées, les cinémas, les festivals, même les campings, que dis-je. Mais malgré cette effervescence franco-française, on sait que seul 1% de l'Afrique... de l'Afrique est vaccinée. Donc, stay woke, comme on disait dans l'épisode précédent. Détendez-vous, vous écoutez et vous regardez peut-être le chip.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous le chip.
Vous écoutez le chip et je suis comme d'habitude entourée de mes deux compères, Kevin Donat, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et François Houlac.
Bonjour, bonjour.
Alors, si vous nous regardez depuis YouTube, qu'est-ce que vous faites? Vous vous abonnez, vous sonnez la cloche, oui. Vous likez, vous subscribez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Non.
La cloche est activée, donc il ne faut rien manquer.
Ouais. En plus, on lit les commentaires et de manière très surprenante, vos commentaires sont très intéressants. Par rapport aux commentaires de YouTube en général. Je trouve que voilà, il y a un niveau quoi.
On a une fanbase de qualité.
Voilà, on sent qu'on a des nerds quoi dans notre fanbase et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de très intéressant, je pense. On va vous parler de nos expériences minorisées en environnement festif, c'est-à-dire les soirées les plus blanches de notre vie quoi. En gros.
J'ai bien aimé la façon de l'amener, super.
C'est très prudent tout ça, j'aime beaucoup.
J'aime bien.
Et du coup, surtout, comment ça nous a fait nous sentir, nous qui ne sommes effectivement pas blancs, et qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans une soirée avec 100 personnes et que d'un coup résonnent les premières notes des lacs du Connemara.
Ou de Émile et Images, on va en parler.
Alors en plus, si vous êtes blanc et que vous écoutez cette émission, c'est le moment d'apprendre et de comprendre comment vous êtes vu de l'extérieur. Voilà. Allez, c'est parti. Ben, d'abord, on va commencer par le trash iconique avec François.
Quand même,
je
t'attends devant les buts, tu me fais pas la passe. Moi, j'ai envie de aujourd'hui décerner un iconique au rappeur Youssoupha qui il y a quelques jours a eu une opinion sur l'émission Quotidien qui était un peu clivante, mais je vous l'ai dit comme ça, les nazis c'est pas bien.
Ouais.
Voilà.
J'ai entendu cette populaire opinion.
Écoutez, je vous le dis comme je le pense, voilà, quitte à être à contre-courant, voilà ce qui s'est passé. Alors en fait, Youssoupha, il a été au centre, vous savez, d'une polémique à la fin mai. Parce que en fait, il a composé une chanson, vous savez, pour annoncer... Voilà, pour l'Euro 2021 de football, il a pour annoncer en fait le listing
des bleus,
la composition voilà de des bleus. Et donc il y avait, vous savez, tout le
il
tout
a fait un peu une VG Dream.
Non, enfin un petit peu, enfin pas vraiment, mais voilà, il y avait le clip, il y avait des images magnifiques de Paris et des quartiers, il y avait les joueurs qui étaient en image, etc. Il y avait une instru un peu martiale, vous savez, en mode on s'en va en guerre, etc. Et puis on avait ces paroles écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu, etc. Bon, voilà, moi je suis pas un grand fan de Youssoupha, mais franchement le produit était carré. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités politiques, notamment à droite et à l'extrême droite, qui ont fait des polémiques, qui ont fait des débats sur les plateaux télévisés.
C'est pas vraiment la France.
Ouais, voilà, en mode bon, c'est scandaleux que Youssoupha fasse l'hymne de l'équipe de France et qu'il nous représente, etc., etc., etc. En fait, Youssoupha, c'est vrai que en 2009, si je me trompe pas, il a eu des propos dans un morceau sur Éric Zemmour où il a dit voilà, je mets un billet sur la tête de celui Qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Il a été attaqué en diffamation par Éric Zemmour. Il a gagné contre Éric Zemmour. Éric Zemmour a dû fermer sa gorge. Ensuite, un peu plus tôt, en 2006, il avait ce morceau classique qui s'appelle « Éternel recommencement » sur lequel il dit « C'est comme dans ce rêve où ma semence de nègre fout en cloque cette chienne de Marine Le Pen. » Je fais que répéter hein, la chanson, attention.
Guillemets.
En 2022, on mettra des bips sur cet épisode.
Voilà, c'est ça. Quand les Blancs ils disent N-word dans tous les morceaux, ils disent « Eh, c'est des chansons !» Moi, je fais pareil, c'est la chanson. Voilà, il a dit « Comme dans ce rêve où ma semence de nègre fout en cloque cette chaîne de Marine Le Pen. » Il n'a pas été attaqué, d'ailleurs, donc voilà, j'ai le droit de le dire. Et donc, voilà. C'est pas étonnant finalement, Youssoupha, rappeur militant, rappeur engagé, très, vous savez, en contact avec sa négritude, très en contact avec aussi ses origines banlieusardes, etc. Et puis maintenant il vit en Côte d'Ivoire, donc il s'en bat un peu les reins de tout ça. C'est normal qu'il soit une sorte de poil à gratter, si vous voulez, pour la droite française. Et en fait, il y a quelques jours, du coup, Youssoupha a fini par réagir à tous ces débats, etc. Il est passé chez Trapnard sur France Inter, il est passé chez Quotidien, et il a eu des paroles que je trouvais très inspirantes. D'abord, il a dit c'est pas un hymne. La chanson qu'il a faite, écrit mon nom en bleu, c'est pas un hymne à proprement parler pour l'équipe de France. C'est un morceau que la FFF, la Fédération Française de Football, lui a demandé de faire.
C'est une commande.
Voilà, c'est une commande pour annoncer le listing spécifiquement. C'est pas un hymne officiel ou quoi que ce soit. C'est pas ce que Gims va faire, par exemple, pour la Coupe du Monde au Qatar. Et ensuite, il a eu cette citation que j'ai beaucoup aimée. Où il dit, là j'ai quand même l'impression qu'il mène la barque, en parlant évidemment de l'extrême droite, ce sont des partis qui sont racistes, qui sont antisémites, qui sont homophobes, qui dansent avec des nazis, là il fait référence, vous savez,
Marine,
à la fameuse vidéo
à Vienne.
Voilà, de Marine Le Pen, qui était dans un bal de nazis d'Europe. Et puis il dit, voilà, si on laisse faire, si on avance avec leur mécanique, ben, ils nous emmènent dans leur agenda à eux, et moi en tout cas, c'est un agenda auquel je ne souscris pas, et c'est pour ça en fait que je réponds même pas. Et moi je trouve ça cool.
Respect.
Parce que il centre finalement son ressenti avant tout. Il centre son ressenti et il refuse finalement de négocier son humanité, de négocier sa légitimité en tant qu'artiste, en tant que Français, en tant que Noir. Et je trouve ça très cool. Vous savez très bien c'est quoi ma citation préférée sur le sujet.
Sur les nazis.
Pas sur les nazis, sur le fait de se recentrer son ressenti. C'est la citation, évidemment, de Toni Morrison, l'autrice de Beloved, etc., qui a dit la fonction, la très sérieuse fonction du racisme, c'est la distraction. Le racisme vous empêche de faire votre travail. Il vous pousse à expliquer encore et toujours votre raison d'être. Quelqu'un dit que vous n'avez pas de langue, vous passez 20 ans à prouver que vous en avez. Quelqu'un dit que votre tête n'est pas correctement formée, alors vous avez des scientifiques qui travaillent pour démontrer le contraire. Quelqu'un dit que vous n'avez pas d'art, alors vous ressortez tout cela. Quelqu'un dit que vous n'avez pas de royaume, alors vous ressortez tout cela. Rien de tout cela n'est nécessaire. Ils auront toujours quelque chose à redire. Voilà. Et donc Youssoupha, il refuse de se laisser distraire. Et je trouve ça iconique en fait. Donc j'ai trouvé ça très cool. Et je vous donne un iconique évidemment. Et puis je vais aussi donner un iconique quand même au Rassemblement National. Parce que
Hear me out.
Je pense que le Rassemblement National a raison vraiment sur un point, c'est que
va être coupé cette phrase là.
C'est pas Youssoupha qui aurait dû en fait faire ce morceau qui quand même voilà, même si c'est pas un hymne, va représenter notre grand et beau pays qui est la France. C'est pas Youssoupha. C'est Gazo. C'est Gazo qui aurait dû faire ce morceau.
Malakishta.
Drill FR4, plus grand tube de l'été 2021. Vous imaginez Gazo qui fait le morceau?
Ah ouais, non, mais
il
ouais.
Il n'est pas trop tard.
Les camps de lance sont remplis de pénalty. Bow. Flex. On voit que je connais pas les règles du foot, hein, qu'avec cette phrase. Non, mais voilà. Donc, c'est vrai que la FFF a fait preuve d'un manque de discernement dans leur goût rapologique. Parce que finalement, aujourd'hui, les jeunes, ils s'enjaillent sur qui? Ils s'enjaillent pas vraiment sur Youssoupha, qui a 43 ans. Qui est dans un rap très conscient, intellectuel, etc. C'est un peu le J. Cole français, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu Kerry James. Enfin, il est dans cette même mouvance là. Voilà, très très conscient, etc. Alors son nouvel album est très bien, Neptune Terminus. Mais moi, j'aurais plus vu un Gazo. Ou alors, si vraiment on doit partir dans, vous savez, un hymne footballistique. Je pense évidemment à Niska. Ouais. Niska, Matuidi Charo, c'est quand même l'hymne footballistique par excellence. Moi, je vois très bien.
Ou MHD, mais.
Ou MHD, ouais. Voilà. Tu vois très bien un Niska faire, je sais pas moi, Kipembe, Bendo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je tiens vraiment à donner cette iconique au Rassemblement National qui a vraiment, pour une fois, fait preuve de hauteur de vue. Et voilà, Rassemblement National, sachez que si vous voulez me payer très cher pour du consulting, du race consulting, je suis disponible. Bisous.
On passe à la suite.
Eh bien, c'est super. Sur ce, on va passer à la suite. Je suis atterrée.
J'étais pas prêt.
Alors, qui veut commencer à nous parler de ces soirées? Je crois qu'il y a un petit mécanisme, on va faire un jeu.
Alors, si vous nous suivez depuis longtemps, vous avez peut-être regardé l'épisode qu'on a fait, écouté l'épisode qu'on a fait sur Twitch.
Il y a deux ou trois ans,
on avait une espèce de corbeille comme ça, et on tirait des petits papiers et on réagissait ensuite aux petits papiers et il se passait des choses généralement intéressantes, c'est-à-dire des discussions sur la race et la pop culture, car c'est notre ligne éditoriale. Et donc on va faire la même chose en fait, et on a mis dans ces petits papiers plein de d'éléments, on va dire, comment on peut appeler ça, des trucs que la population majoritaire aime faire ou écouter, voilà, en soirée. Dans un épisode précédent du Chip, Kevin, tu disais que tu avais un master en Rasta Blanc parce que tu avais vécu à
Exactement,
Rennes.
Exactement.
Moi, je pense que j'ai un doctorat en caucasité parce que j'ai vécu à Paris et que, enfin, dans des lycées catholiques privés, tout ça. Et donc, toi, tu viens d'Istres, donc on est tous un peu experts en
caucasité. Putain, mais vas-y, comment
ici.
Tu révèles là?
Ah, j'ai pas le droit?
Si, c'est bon.
Tu gardes beaucoup de choses secrètes en ce moment, Mélanie.
C'est ça. Donc bref, on va tirer des papiers, on va voir ce qui se passe. Ça vous va?
Oui.
On fait ça? De toute façon, c'est l'épisode, on n'a pas le choix. Je commence. Alors, fais-moi des roulements de tambour. Boum. C'est un peu comme Motus, vous savez. Qu'est-ce que j'ai? Alors, le quart d'heure exotique, entre guillemets.
Le quart d'heure exotique. Oh,
le quart d'heure exotique.
Ah, là, où tous les regards se tournent vers toi, là?
Alors, ça peut être ça, ouais, je sais même pas qui a écrit ce papier, en fait, mais qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, ça m'évoque personnellement, alors pas forcément des soirées à proprement parler, mais plutôt, vous savez, dans les mariages, quand l'ambiance, elle va être... Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il y a toujours un moment où la musique va tourner.
Donc là, on parle de vraiment un environnement où t'es une des rares personnes non blanches, c'est ça?
Ouais, ou du moins où tu vas pas avoir le contrôle sur
le déroulement.
Musique. Ouais, sur la musique notamment.
Moi, ça me fait penser au fait que tu peux aller à un mariage où tu veux, en France, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, quels que soient les gens, origine, statut social, etc. Tu vas forcément avoir un quart d'heure musique venue de nos colonies ou de l'outre-mer, et tu vas avoir 1, 2, 3 soleils, tu vas avoir, je sais pas, du Magic System, des choses comme ça, du zouk, mais vraiment un truc spécifique de
des
zouk.
Des standards,
et en fait, tout le monde connaît, et je pense que tu vas, je sais pas, dans beaucoup d'autres pays européens, tu vas en Allemagne, en Italie, etc. T'as pas cette espèce de truc de quart d'heure où tout le monde va sans
jaillir. Après, j'ai pas fait beaucoup de mariages en Allemagne, en Italie.
J'ai fait quelques soirées, quelques mariages de ce type-là en dehors de France, et t'as pas ce truc hyper français d'une musique qui vient et que tout le monde connaît et qui est presque...
Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de réparation parce qu'on stream du coup
Je sais pas si... non, mais ouais.
Mais est-ce que par exemple, si tu vas en France... Hein, mais dans un mariage, par exemple, dans un mariage marocain ou algérien,
il y a ça.
Voilà, c'est la question. Est-ce qu'il y a un quart d'heure, 1, 2, 3 soleils? Je pense pas.
Ouais, ça dépend. Hein. Enfin, non, ouais.
Ou un quart de Francky Vincent, tu vois.
Si tu vas dans un mariage, effectivement, en Afrique, je pense que c'est différent. Mais ouais. Non, dans les mariages vraiment français blancs, c'est typiquement, effectivement, il y a le quart d'heure Francky Vincent, il y a le quart d'heure un peu Cassave. Il y a aussi.
Enfin, Cassave. Si et bois.
Si et voilà. Bois.
Encore, non, mais si, attends, Zouk là, c'est ses médicaments Nouni, et ouais. Si c'est des connoisseurs, ouais. Si et bois, tu vois. Pas non plus.
Et puis, Castagne,
c'est
là, t'as toutes les mamans qui se lèvent pour danser sur ça, quoi.
C'est à la fois a blessing and a curse. Vas-y.
Alors.
Ding. Qu'est-ce qu'elle va
danser
tirer?
Danser le rock sur toutes les musiques. T'as des choses à dire, Kevin?
Non, peut-être que.
J'ai senti une réaction viscérale là. Donc.
Non, mais j'ai l'impression que à chaque fois c'est moi qui vais réagir.
Vas-y.
Non, mais c'est bon. Je trouve que je tiens à préciser que les blancs ne sont pas un monolithe et et que et pas tous les mêmes. Je veux pas faire des raccourcis trop essentialisants, mais ces 15 dernières années m'ont montré que tu vois, le côté rock, swing, etc., de nos amis les blancs est vraiment à toute épreuve. C'est-à-dire que sur de la salsa, sur du zouk, sur n'importe quoi, je pense, de la kizomba, tu peux voir des mecs faire un peu tournoyer autour d'eux-mêmes, des jeunes femmes les reprendre par les bras, machin, etc. Est-ce que c'est moi qui hallucine ou est-ce que c'est quelque
chose que c'est pas un truc... Moi, j'ai l'impression que c'est un truc d'un certain âge. J'ai l'impression que c'est des vieux qui font ça.
J'ai vu des gens de mon âge.
Moi, je l'ai vu à l'âge de 20 ans, tu vois.
Au lycée, j'ai vu ça. J'ai vu des personnes danser du rock'n'roll sur David Guetta. On m'a dit, you got me dancing, flying, na, na. Non, vraiment. J'ai vu ça. C'est toujours un truc qui m'a fumé, c'est que, ils adaptent ces espèces de pas de deux, vous savez, de danse sociale, un petit peu à toutes les musiques. J'ai vu des personnes blanches, encore une fois, je suis désolé, et je vais pas faire de généralité non plus, mais j'ai vu des blancs danser du rock'n'roll sur de la salsa. J'ai vu des blancs danser du rock'n'roll sur de la dancehall.
Non, mais ça encore, mais sur David Guetta, ça m'a tué.
Je te jure, j'ai vu ça de mes yeux vus. Et c'est à ce moment, et c'est quand t'es dans une soirée, tu vois, et que tu vois ça, que tu sais que tu ne fais pas partie de...
Donc toi, tu danses comment sur David Guetta, François?
Sur David Guetta, j'ai énormément de... C'est marrant que tu m'en parles, parce que David Guetta, justement, mon gros problème, c'est quand j'allais en boîte, justement, quand j'étais au lycée, c'était la grande époque de David Guetta, de Love Don't Let Me Go, etc.
Les années 2000.
Et même si je vivais à Paris, donc qui est quand même une ville très cosmopolite, etc., etc., avec une grosse culture rap, les soirées rap n'étaient pas aussi démocratiques qu'avant. Si t'avais pas des potes qui étaient un peu dans le truc, etc., et moi c'était absolument pas le cas, c'était pas aussi facile, c'était pas aussi mainstream de trouver des soirées rap. Et donc pendant des années, vraiment, je me suis retrouvé à être traîné par mes potes. Enfin, quand tu voulais sortir en boîte, forcément je suivais mes potes. Ouais. Et donc avec mes potes, on n'allait pas en boîte afro-antillaise parce qu'ils étaient blancs, on allait en boîte dite généraliste. Ouf. Tout simplement. Et donc forcément, j'ai pendant des années, vraiment, je me suis forcé à écouter du David Guetta,
donc
écouter de la house.
La tectonique.
Non, j'ai pas dansé la tectonique. J'avais des potes qui dansaient la tectonique, et je trouve qu'en termes de danse, c'est extrêmement compliqué. Pour moi, c'est extrêmement contre-intuitif en fait, parce que la rythmique, il y avait quelques morceaux, tu vois, qui sont assez chaloupés pour assez saccadés pour essayer de faire des pas. Mais comment tu veux faire des pas, tu vois, sur de la
house.
Mais
là, maintenant qu'on a la vidéo, tu veux pas nous montrer comment tu...
Non, mais c'est simple. La house, ça se danse avec les pieds.
Ouais.
Tu sautilles quoi, et peut-être avec les bras, enfin je sais pas, comme
vous
ça.
Vous connaissez ce meme là sur Twitter, sur Dance Like a White Girl et tout, c'est je sais pas si vous avez vu Marriage Story sur Netflix avec Scarlett Johansson quand elle danse.
Non,
en fait, tu
vu.
Danses comme ça avec les bras.
Ouais voilà, mais alors que les musiques que j'écoute moi, ça sort du bassin et des épaules, c'est pas possible, tu peux pas gagner en fait.
Ouais, on en dira.
À toi, Kevin. Putain, je sens la souffrance là.
Le paquito. Okay.
Le paquito.
J'ai tiré le paquito. Je pense que c'est le paquito est peut-être aussi de façon générale toute le folklore, les danses régionales, tout ça. Moi, le paquito, je l'ai vu une fois dans un mariage du Sud-Ouest. On parle beaucoup de mariage, mais c'était un mariage breton Sud-Ouest et j'avais jamais vu de paquito de ma vie. Et en fait, donc c'était dans le Finistère, c'était très sympa et tout. Mais c'était une jeune femme qui se mariait avec un Toulousain. Et donc à la fin, ils se retrouvent et ils font. Font un paquito, mais ils étaient genre 40 Toulousains, etc.
Qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont jamais allés à un mariage Toulouse?
Je saurais pas comment expliquer. Les gens s'allongent, c'est ça, et ils font passer une personne par-dessus. Enfin, c'est assez visuel.
Ah oui, ils portent une personne.
Ils s'asseyent en rang, en lignée, comme ça, et il y a une personne qui fait comme du crowd surfing sur le ventre, sur les gens. Et après, il se met au bout et...
Et il y a une musique spéciale qui accompagne ça?
Je sais
pas. T'as jamais fait de paquito, Mélanie?
On nous dit oui en régie.
C'est quoi la musique du paquito?
Ça fait ta 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 la ta 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 la. C'est un peu la bande-son du Mal de Mer. Vraiment, quand j'écoute ce son, j'ai l'impression de tu sais, de... Pas que c'est la... Tu sais, quand un personnage de dessin animé, il a le Mal de Mer et tout, pour moi...
Ok.
T'as jamais fait... Attends, Mélanie, t'as jamais fait paquito?
Non.
T'as jamais...
Toi, t'as déjà surfé sur le paquito et tout?
Alors moi, j'étais pas dessus.
J'ai déjà vu des paquitos. Moi, j'ai découvert le paquito. J'étais en école de journalisme. J'avais donc, 23, 24 ans.
Et j'ai pas votre expérience de vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Mais tu viens du sud, wesh.
Comment ouais, ça, mais de l'autre sud, là, moi, vers Marseille, Nice, tout ça, là, tu vois, je viens pas de ce sud-là.
Ouais, j'ai fait mon premier paquito, je l'ai vu à Lille, hein. et la meuf qui l'a initiée, elle venait de Bordeaux, donc c'est pas le sud du paquito. Ah si, c'est pas loin.
Si, oui, c'est pas loin, c'est dans le sud-ouest.
Parce que c'est quoi, c'est les Landais à la base qui doivent faire le paquito?
Ouais, je sais pas, c'est les Pays Basques et tout, là. Ouais.
Mais c'est vrai que la première fois que j'ai découvert le paquito, je me suis dit, what the fuck? Qu'est-ce qu'ils font vraiment, tu sais, c'est une sorte de queuleuleux mais à l'envers.
Mais à l'envers, ouais.
Voilà, à l'envers, ouais, parce qu'au lieu d'être debout, t'es assis. Et c'est là que j'ai compris encore une fois que on n'allait pas écouter de Rick Ross
à cette soirée.
Ça crée des grands moments de solitude, quoi.
Il y a la gavotte aussi pour le côté, pour les Bretons, c'est, tu sais, ils dansent en cercle, ils se tiennent par les petits doigts.
Mais là, tu spoiles, non? Parce que moi, j'ai fait une soirée.
Pardon, excuse-moi, j'avais pas vu, parce que du coup, j'ai pas vu.
Non, je vais la piocher, non?
Non, mais je sais pas ce qu'il y a dans la campagne.
Ouais, si on parle de régionalisme, moi, en fait, quand j'étais jeune, il y a quelques années, j'avais un copain breton. Et il m'avait amené dans sa famille et j'étais allée au festival interceltique de Lorient.
L'afro-punk des Celtes, l'afro-nation des Celtes.
Et c'était un choc effectivement culturel, car je pense que je devais être la seule personne racisée déjà dans le groupe avec qui on était. Plus en plus, il y avait sa famille et plus tous les gens en fait qui étaient réunis pour cet événement. Et effectivement, comme tu dis, j'ai vu des gens se tenir par le petit doigt en dansant. Il y avait des tenues traditionnelles et en fait, c'était pas tant. Enfin, tu vois, moi, les gens ont le droit d'avoir leur tradition et de faire ce qu'ils veulent, tu vois.
Ah merci quand même.
Voilà.
La France peut rester la France, merci.
C'était juste, bah déjà comment moi je me sentais et comment on me regardait. En mode, ah, toi, tu connais pas, on va te montrer.
Est-ce que du coup, pour toi, c'était le fait d'être racisé, ou est-ce que c'était le fait de pas être bretonne qui a joué?
C'était le package. C'était les deux. Je pense qu'en fait, c'était, tu vois, les cercles se rejoignaient. Et en fait, je pense que j'étais autant exclue parce que j'étais pas bretonne que parce que j'étais.
Est-ce que tu désignerais, du coup, cette journée comme un white moment dans ta vie?
Ouais, très clairement. Surtout que j'étais jamais allée à Lorient, donc c'était vraiment la découverte. C'était pas ouf quand même.
C'était pas ta scène.
C'est marrant, mais ça me fait penser, vous savez, à l'épisode de Atlanta, vous savez, la série de
Donald
Glover.
Oui,
avec Zazie Beetz,
voilà,
sa copine qui est donc métisse allemande, ouais, ouais. L'emmène à une soirée Dirndl.
Où il y a du blackface et tout.
Où il y a du blackface notamment, etc. Et c'est en mode ambiance full Allemagne. Et le gars est en mode, je suis totalement en caucasité, qu'est-ce qui se passe, parce que tu m'as emmené. Et la meuf dit, écoute.
Ça et après, elle se met à parler allemand avec ses potes.
Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, ça fait aussi partie de moi, en fait. Ouais. Ça fait aussi partie de moi, et tu me parles de Bretagne, mais ça me fait penser aussi qu'il y avait un gars, là, j'ai oublié son nom, mais un Renoir qui, pareil, était un joueur de Bignou, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, le truc breton, là, mais il jouait vraiment au niveau national, il était dans un groupe traditionnel, connu nationalement, c'est un peu comme si demain, on avait un blanc dans Cassave,
toi-même, tu rigoles.
Ouais. Et il disait, je prends du racisme tous les jours, alors qu'en fait, ben, je suis noir, mais je suis full breton, quoi.
Bah oui.
Comme Jean-Pascal Zadi qui dit, je suis full normand.
Je suis noir et je n'aime pas le manioc.
Où je suis, oui, voilà, c'est ça. Oui, Gaston Kellman, très 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 bonne ref. Voilà. Tu peux me passer le truc, s'il te plaît, Kev? Alors, qu'est-ce que je vais tirer, moi? Alors. Limiter chaque genre musical à deux morceaux.
Ah, c'est DJ King, ça. DJ King, c'est, il passe un morceau, il coupe, il passe le deuxième morceau du même genre, il coupe et il passe un autre genre.
C'est ce que ça t'évoque?
Bah, c'est ce qu'on. En fait, on appelait ça avec mes cousins et mes cousines quand on était petits. On disait ah, DJ King et tout. Quand quelqu'un faisait le DJ et qu'il était nul. Donc, c'est resté. Maintenant, j'appelle ça DJ King. Mais ouais, c'est ça le truc.
Non, je sais pas. Moi, ce que ça m'évoque.
Moi, c'est le rail, tu sais, c'est le moment rail de la soirée.
Ouais, c'est plutôt ça que ça m'évoque.
Ça rejoint un peu le quart d'heure exotique.
Ouais.
C'est vrai. Moi, ce que ça m'évoque, c'est beaucoup de soirées que j'ai faites au lycée ou à la fac, où on va dire qu'il y avait encore une fois, ou même en boîte, vous savez, où il y a de la musique, ben justement généraliste. Ouais. Et en fait, quand je dis généraliste, du coup, ben c'est pas de la dancehall, pour faire simple. et qu'en fait, il y a un moment où il va y avoir un son de rap. Il y a un passage rap, on va dire, par exemple.
Il y en aura quatre, tu peux prédire d'avance les quatre.
Et tu peux savoir, en fait. Ouais. C'est un truc qui me rend dingue quand je vais en soirée, où il y a beaucoup de personnes blanches, c'est que, on dirait que le rap, pour eux, ça se limite à Dr. Dre, Next Episode. Dr. Dre, Still D.R.E. Le rap français, c'est juste, Je Danse le Mia.
Bon, NTM aussi.
NTM, bon allez, Boulbi. Enfin bon, le rap français, ça commence à devenir beaucoup plus mainstream aujourd'hui. Et ouais, voilà, ouais. En vrai, ils vont peut-être passer du gazo, etc. Si un quart d'heure salsa, ce sera...
La Lambada.
Soit MNT, moi je dirais, tu vois.
Ouais. Et c'est pas de la salsa, mais ouais, ouais.
Soit MNT, c'est pas de la salsa.
C'est pas plus de la bachata ou du merengue?
Non.
C'est quoi la salsa pour toi?
C'est différent.
Bref, je veux pas aller au-dessus de ma compétence.
Faisons notre programmation DJ King. Moi, quand c'est le moment rail, je mets Aïcha.
Ouais. Ou Faudel.
Et Faudel. Et
ouais.
Voilà.
Ça va être, ouais. J'ai pas de référence en rail en plus, donc je vais pas.
Ils en ont pas non plus, hein, les gens qui font ça.
Et quand il y a du dancehall, ça va me rendre dingue. Sean Paul. Sera forcément Sean Paul. Et ce sera.
Temperature!
Ce sera forcément Temperature. Ce sera pas genre, tu vois. Ce sera même pas Gimme the Light.
Ce sera même pas
Gimme the Light. Franchement, bref.
Vas-y. Voilà.
Tire un papier mail.
Louise Attaque. Qui veut parler de Louise Attaque en soirée?
Kevin, t'as quelque chose à dire? T'as vécu à Rennes, t'as forcément...
C'est vrai, le turf de Kevin, ça.
En vrai, c'est juste... Je sais plus si j'en avais déjà parlé dans un épisode, mais... Donc moi, je suis arrivé de Martinique, d'abord à Rennes, et c'est vrai que en termes de goût musicaux, de soirée, j'étais un peu du père, en gros.
Mais faut t'ouvrir au monde.
Mais c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai découvert des trucs que j'aurais jamais découvert ailleurs. J'étais à des concerts, des festivals où je connaissais pas, mais ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que juste le concept de mettre de la musique pour s'enjailler et en fait d'écouter Louise Attaque ou Noir Désir, on est au début des années 2000. Pour moi, c'est un peu contre-intuitif. C'est pas du tout de la musique sur laquelle j'ai envie de danser, c'est pas du tout de la musique sur laquelle
j'ai
envie
de choper. C'est de la musique à
texte. Ou à la limite, pourquoi pas de la musique à texte pour courir, enfin des trucs, mais pas spécialement ma vision à l'époque et toujours pas aujourd'hui de trucs que j'ai envie de mettre en soirée, de rythmique qui m'amuse.
Et donc comment ça se passait pour toi quand Louise Attaque arrivait en soirée?
Les premières fois, je pense que j'étais super. Autant je pouvais trop danser, etc. Mais par exemple sur certains morceaux, je faisais, je sais pas ce que vous attendez en termes. Et en fait, ils attendaient
du rock'n'roll.
Mais en fait, la vérité, c'est que je suis plutôt un bon danseur. Tu vois, quand je viens sur le dance floor, quand je viens pour zouker, je casse des reins. Donc, mais je sais toujours pas 15 ans plus tard faire du rock'n'roll, faire passer le bras d'une dame sur mon épaule comme ça, etc. Donc c'est vrai que sur du Louise Attaque, peut-être que aucun rein n'a jamais été cassé sur du Louise Attaque. C'est tout ce que j'ai à dire sur.
Est-ce que tu te rappelles de ta première expérience, de ton expérience la plus forte avec Louise Attaque, Mélanie?
Mais là, je sais pas si je peux sortir ce dossier-là. J'assume pas.
Il faut les dossiers, s'il te plaît.
Quand j'ai commencé ma première année de fac, j'ai eu un moment, je sais pas, quelques mois, j'essaye de minimiser.
T'as été membre de Louise Attaque?
Non.
Tu as suivi Louise Attaque
sur une tournée. I was a Canadian teenage pop star. Non, en fait, j'ai eu un moment en fait où cette esthétique m'a parlé, quoi. Et du coup, j'ai acheté.
Tu peux préciser un peu c'est quoi cette esthétique?
Mais voilà, tu vois. Non, mais attends, je suis en train de me dévoiler là, François.
Tout. Je lèche tes larmes.
et j'ai acheté des albums de trio. J'avais 18 ans pour ma défense. Et franchement, j'ai mis des posters dans ma chambre. J'étais en mode altermondialiste en fait. Et Manu Chao, et voilà.
Est-ce que tu as des photos?
Je ne les montrerai jamais.
Je paye des vrais euros pour ces photos, s'il vous plaît.
Et j'habitais. Moi, pour le coup, j'étais pas du tout en Bretagne, j'étais plutôt du côté d'Aix-en-Provence. J'étais partie faire mes études à Aix. Donc, c'était pas du tout le mood à Aix. Les gens, ils portaient plutôt des jeans serrés avec des. Je sais pas si vous vous souvenez, là, les rayures blanches là, sur les jeans qu'on avait dans les années.
Oui, je vois.
Les délavés là.
Les stries un peu.
À Aix, c'était ça la grande mode et tout. Et t'avais le clan un peu des gens qui écoutaient du trio et du Louise Attaque et de la rue qui est à nous et tout.
J'ai écouté trio, hein, mais j'avais 10 ans, pas 18. J'ai écouté le premier album, C'est l'hymne de nos campagnes, La main verte. Je connais encore certaines de leurs chansons par cœur.
Mais t'avais 10 ans. Il y a un problème dans ta timeline, non?
Ben non, ma sœur...
C'était les années 2000, enfin début.
C'est sorti en 2000, j'étais en 6ème.
En 2000, t'avais 10 ans?
T'avais 12 ans, quoi.
T'avais... Non, mais j'étais en 6ème, donc j'avais,
hein,
j'avais...
Ah, mais c'est vrai qu'on est beaucoup d'écart. Hein. Moi, moi, j'ai eu mon bac en 2002.
Bah, j'ai eu mon bac en 2006, meuf.
Ça, c'est 4 ans d'écart, donc...
Mais oui, mais par contre, je suis jamais allé jusqu'à ni porter des sarouels...
Eh ben, tant mieux pour toi.
Ni faire des bolas. Non, mais merci d'avoir partagé, maintenant, je peux me moquer de toi. Mais c'est vrai qu'en en restant, moi, j'ai jamais compris non plus ce passage où, tu sais... En plus, tu vois,
qu'on se cherche, tu vois, c'est it's my identity now.
Non, mais tu vois, plus tard, quoi, je veux dire, plus tard, j'ai jamais compris ce truc de passer. En plus, tu vas passer de Britney Spears à Louise Attaque.
Je me reconnaissais pas dans Britney Spears, moi.
Franchement,
putain, moi je me reconnaissais dans Britney Spears. J'aimais bien certains singles.
Oh, baby.
Britney. Ouais, j'aimais bien. I was born to make you happy.
Il y a des sons parfois. Dont je trouve qu'il c'est comme s'il formait une sorte de socle culturel de matrice, on va dire, culturelle pour tous les Français, on va dire caucasiens, et même plus pour, faut que j'arrête aussi de racialiser parfois
je c'est sais, géographique c'est... et culturel plus que
oui,
voilà,
c'est
ça.
Mais je vais à Paris depuis que j'ai 6 ans et pourtant je n'ai jamais possédé ni écouté de mon propre chef un CD de Louise Attaque, ni même ce morceau « Je t'emmène au vent ». Ouais, mais c'est ma sœur qui avait gravé l'album, t'as vu, donc elle me l'a passé. Tu vois, mais c'est vrai qu'il y a tout un pan de culture française dont tu parlais, là. La rue qui est à nous, Trio, les hurlements de Léo.
Ouais,
vous connaissez les hurlements de Léo?
Non, ça me dit rien.
En gros, c'est des gars qui portent des chapeaux un peu élimés, des feutres, qui ont des violons souvent, et qui parlent comme ça, qui font « Allez,
je les connais pas, mais je les connais ».
Bon, tu vois, ils font genre « Allez, viens, on partage devant ». On va dans les cafés, tu vois, ils parlent comme ça, comme s'ils étaient un peu essoufflés.
Ouais.
Et c'est toujours la même esthétique.
En fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est vraiment, enfin, en fait, je pense que c'est pas fait pour, mais c'est vraiment excluant pour eux.
Non, mais là, je suis désolé, hein. J'ai l'impression d'être presque véhément, mais c'est vraiment un pur truc de bab tout le monde.
Mais alors, attends, je suis désolé. Parce que moi, je me souviens à l'époque, donc, j'ai shout out à mon ami Nico, où j'étais là, ouais, ça c'est des trucs de blanc, ça c'est des trucs et tout. Et en fait, une année, on fait le festival de Rennes, les Transmusicales, qui est un très bon festival,
oui,
programmation,
très bonne programmation.
Et on se retrouve à, je crois que c'était Kaiser Chiefs, un groupe
ouais,
de rock.
Ouais. Avec des tunes serrées et tout.
Exactement,
ouais.
Donc vous voyez à peu près l'époque. Et à un moment, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait ça. Non, j'ai
pour
levé,
ceux qui voient pas, il a l'index et l'auriculaire
levé comme ça. Et c'était peut-être en 2006. Mon pote Nico, il m'en parle encore. Le jour où Kevin est devenu blanc.
Ce qui est marrant, c'est que si tu faisais ça, tu ferais H-Town, Houston, et ce serait un gros rappeur.
Mais non, c'était pas ça.
Mais voilà.
Nous,
enfin, voilà, au chip, en plus, on parle que de ça à longueur de journée, du fait que, de l'inclusivité et du fait que les Noirs doivent et peuvent et le font en fait déjà en pratique pénétrer tous les espaces, genre tu peux tu vois enfin être noir et faire du rock, être noir, être gothique, être noir, être dans la tech, etc. On parle que de ça en fait.
Surtout que les personnes noires ont inventé tous les styles de musique, donc...
C'est ça, tu vois, donc en fait que les Noirs pénètrent tous les espaces, etc., on est pour, enfin je suis pour, en tout cas je parle pour moi. mais ça, la musique de violon et de troubadour, je comprendrais jamais le délire.
Mais alors j'ai envie de faire un, du coup de segue sur un truc, mais je sais pas s'il est dans le bol, et je sais pas du coup si
vas-y,
on peut en parler,
vas-y.
Mais le serpent de mer du chip, quelque chose qui revient régulièrement, dont on a déjà parlé.
C'est quoi?
La tribu de Dana.
Ah,
Mano,
la tribu de Dana.
Mano, ouais.
Dana.
Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je trouve que c'est un banger. Je kiffe.
Vraiment,
c'est un morceau extrêmement efficace.
Je sais que Kevin est l'ennemi de cette chanson.
Non, je suis pas l'ennemi total de ce morceau. C'est juste qu'il y a des trucs de, à l'époque, en fait, on est à une sorte d'âge d'or du rap. Et c'est un peu dommage que dans un peu la musique française mainstream de la fin des années 90, le seul morceau de rap qui colle et qui soit devenu un hymne, c'est La Vallée de Dana, alors que c'est un truc où il y a des albums assez importants qui sortent.
Il remporte une victoire de la musique.
Voilà.
Face à IAM.
Et NTM, je pense.
NTM et MC Solar.
Ouais.
Le mec, il est face à Sangoku, Naruto et Vegeta. Il est main dans les dos, il gagne.
Mais, par contre, de façon incontestable, c'est un banger. Moi, à l'époque, je suis au collège en Martinique. Et évidemment que ça passe à la radio, ça passe sur certaines chaînes et tout. Donc, c'est pas tellement un truc de les blancs, machin. Mais les mecs, ils ont pas marqué plus que ça l'histoire du rap français. Mais ils ont cette SACEM.
Tu mets cette chanson en soirée, C'est ça qu'on s'était battu l'autre fois. T'avais dit non, moi je danse pas et tout.
Ouais, mais ouais, c'est simple. Moi, quand j'étais à l'école de journaliste, donc pendant 2 ans, on faisait au moins, on faisait genre 2 soirées par mois. On louait une sono, etc. Machin, on passait de la musique. Et c'est moi qui faisais le DJ entre guillemets de la soirée.
DJ qui?
Donc
DJ Foulak.
DJ Foulak. Et je peux vous dire, je peux limite vous réciter par cœur la playlist. Donc à l'époque, il y avait du Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, etc. Machin.
2012.
Ouais, c'est ça, 2011-2012, machin. Il y avait les corons de Pierre Bachelet, parce que c'était l'hymne de l'école, donc voilà, c'était un peu notre moyen. Et je peux vous dire qu'à chaque soirée, il y avait forcément un passage La Tribu de Dana, il y avait forcément un passage Louise Attaque, et il y avait forcément un passage, comment ça s'appelle, Tomber la chemise de Zelda.
Ouais.
On parlait tout à l'heure de Standard. En fait, je pense que La Tribu de Dana, ça fait partie de ces morceaux que je ne comprends pas quand est-ce qu'ils vont s'enlacer, en fait. Genre, quand est-ce que vous lâchez l'affaire avec ce morceau, quoi, en fait? Il y a plein de bons rap qui est sorti depuis.
On nous dit en régie jamais.
et en vrai, je kiffe aussi ce morceau, en plus, La Tribu de Dana. Moi, il y a une séquence que je déteste de ce grand journal, petit journal, j'ai oublié. Bref, Yann Barthès, où il est aux États-Unis. Ils sont aux États-Unis. Je crois que c'est du coup Martin Veil qui est aux États-Unis. Il est dans un studio avec des rappeurs de Chicago, je sais plus qui. Et en gros, il leur dit, on va vous faire écouter du rap français, etc.
Non.
Ce gros bâtard, on est en 2012 et il fait écouter La Tribu de Dana. Et forcément, l'américain fait genre. Yeah, it's cool, I guess. Tu sais, toujours très poli, les Américains.
It's cool, I guess.
C'est déprimant, quoi. Bref.
Ok. Next.
C'est à moi, du coup.
C'est à toi? Ouais.
Bah, tu l'as déjà mentionné rapidement, Mélanie, mais les lacs du Connemara.
Ah. Non.
Tu vois, on revient sur les standards. Moi, ça me fait penser à des bars de nuit, à des trucs comme ça. Et
les soirées d'école de médecine à Rennes, non?
Alors moi, j'ai pas fait médecine à Rennes, mais oui, c'est clair que dans les bars de nuit de cette époque-là, ça tourne en boucle. Et je sais pas trop ce que ça veut dire parce que, en fait, moi, je connaissais pas trop Michel Sardou à l'époque et je voyais pas ce qu'il représentait politiquement. Donc j'avais 2 ou 3 amis gauchistes qui râlaient « Ah, vous faites chier avec du Sardou !» Et tout le reste, le 97% des autres blancs, mais ravis, qui dansent, qui chantent, machin, tout. Et 2-3 qui sont vraiment vénères. Donc je pense que ça fait pas l'unanimité dans la communauté non plus. Est-ce que toi, ça t'inspire quelque chose, les lacs du Connemara?
Non, j'ai jamais...
Est-ce que c'était dans ta playlist à Lille?
Non, pour le coup, non. Ah, ouais. C'était quand même relativement cool, hein. Faut pas abuser. Non, j'ai l'impression que c'est devenu que le morceau est passé un peu dans la pop culture depuis quelques temps, grâce aux écoles de commerce. Je crois que c'est les écoles de commerce qui ont... J'ai jamais été en école de commerce, je sais pas, hein. Mais de ce que j'ai lu, d'articles, etc., je crois que c'est un peu les écoles de commerce ou peut-être la médecine. Enfin, vous savez, en gros, les endroits où on va gagner beaucoup d'argent et on taffe comme des chiens et on se met des mines monstrueuses pour oublier. C'est un peu dans ce milieu étudiant là, j'ai l'impression, avec beaucoup de jeunes hommes, de jeunes mâles hétéros blancs et pas forcément déconstruits, et qui aiment enlever leurs vêtements à partir d'un certain taux de l'alcoolémie. J'ai l'impression que ça correspond à cette démographie là en fait.
Sur les voitures et faire tourner le bip en voilà. Hélicoptère.
Je dis ça vraiment, je fais de la sociologie de comptoir en vrai. Ouais, je suis pas là-dedans.
Vous avez vu ce youtubeur américain qui écoute les standards de la musique française et fait du react dessus?
Non, j'en ai vu sur le rap, mais jamais sur la chanson.
Il a fait un react sur les lacs du Connemara.
Et alors?
Je vous enverrai la vidéo.
Ah ouais.
Il fait « Oh ouais !» tout. Mais en fait, là, au début, les gens aimaient bien ces vidéos, mais là, tout le monde est en train de dire qu'il force, quoi.
Ok.
Qui force un peu parce que le début du lac des Connemara, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est tout
c'est
lent.
C'est lent, ouais.
C'est lent.
Ouais.
Et du coup, la gueule, il fait ah c'est trop bien et tout. Et puis après, quand la chanson part, il fait ah. Donc ouais, c'est un peu forcé, quoi.
C'est un peu forcé.
Ouais, non, moi Sardou, c'est compliqué quand même. Hein. On va pas se mentir.
Bah attends, il a écrit un très bel hymne pour les femmes, non?
Oui.
Femmes, les et puis un morceau aussi aux colonies.
Nos colonies.
Le temps. Mais oui, c'est vrai que c'est lui aussi. On pense encore à toi, au Boana. Mais ça, j'ai découvert après pour le coup.
C'est notre pote.
C'est vrai quand même.
C'est notre ami problématique.
Ouais, non, mais il y a un socle.
Pour moi, ce morceau est tellement raciste que c'était Michel Leb, alors que Michel Leb, il est pas chanteur, quoi. Tu vois, dans ma tête, je me dis, ah non, mais non, c'est...
T'associes ouais. les pires trucs des années 80.
Allez, je tiens un dernier papier ou on
Allez,
a encore un peu de temps?
Dernier paps.
Alors. La sangria et le punch, entre guillemets.
Le punch.
Moi, le truc, vraiment...
Ah, vous allez nous embêter avec votre homme, là, je sens.
Alors là, meuf, t'es pas prête. T'as jamais été dans une soirée,
où il y a un saladier.
Ouais, ça oui.
Avec un saladier, on te dit c'est du punch.
Ouais.
Avec dedans du rhum fauconnier acheté au Franprix à 6,99€.
Du Olnick, mon
gars. Du Olnick.
Mais on n'a pas de son étudiant. Tu veux qu'on aille acheter votre rhum à 40
c'est pas une
euros là.
C'est pas une
clous
question,
de girofle. Mec, j'ai trouvé des clous de girofle dans un punch. Quoi, dans...
Ça va être chebeste là.
Non, mais la définition vraiment française du punch, et je vous le dis, et borderline.
La définition hexagonale, tu veux dire?
Hexagonale, excusez-moi, ouais, du punch et borderline est très problématique.
Offensante.
Voilà, offensante, borderline raciste.
Qu'est-ce qu'il y a là?
C'est du racisme, je vois ça, c'est du colonialisme. Non, mais le punch, déjà, voilà. Je vous avais déjà raconté cette anecdote il y a longtemps dans un autre épisode du Chip.
On n'est pas d'accord, mais oui, continue.
Comment ça?
Sur tea punch. Oui. Le punch et le tea punch.
Non, mais expliquez là, vous parlez entre vous, on comprend
punch,
pas.
Pour moi, un punch simple, on va dire, un punch tout court, tu vois, pour moi, un punch tout court, c'est un tea punch, c'est genre rhum, citron, sucre.
Oui.
Citron, rhum, sucre, CRS.
CRS.
Tu vois, okay. Donc tu mets du sucre de canne, pas du sucre blanc, merci, parce que ça m'est déjà arrivé dans des bars d'avoir du sucre blanc, je te jure. On m'a déjà fait un punch avec du sucre blanc et
t'as renvoyé le punch.
Et du citron jaune,
ouais,
s'il te plaît, au lieu de citron vert.
Et c'est pas
vert.
Ça qu'il faut faire.
Ah ben non, citron vert et sucre de canne et puis ben du rhum pas Olnick. Bref, ça c'est machin. Ensuite, si tu commences à préciser ben punch coco, punch cacahuète, punch ce que tu veux, ben là on est sur des punchs aux fruits, etc. Mais en aucun cas le punch n'est ce que nos amis le Coderme qualifient de punch, c'est-à-dire qu'ils mettent ça dans un grand saladier, ils te mettent 2 litres de Tropicana, 2 litres de Joker, de jus Joker multivitaminé, ils mettent du Olnick comme ça, tu sais, ils mélangent comme comme Caris et des clous de girofle. Et ils te servent ça avec une louche.
Ah, il n'y a pas de citron? Si.
Des fois, ils mettent du citron, ouais, du citron jaune.
Et du sucre.
Mais en fait, je pense que c'est.
Et du quoi?
C'est du sucre.
C'est pas une confusion avec le punch des Américains, tu vois, que t'as le. Tu vois, l'histoire américaine, t'as le saladier
ouais,
avec
les trucs. Ouais, au premier, il y a le saladier.
Voilà, et ils appellent ça du punch. Mais le truc de le réapproprier, enfin, de le mettre à la sauce française, de l'appeler punch, de mettre. Alors que, en fait, c'est plutôt des. Ça va plutôt vers le planteur, en fait, ce qu'ils
essayent
de faire.
C'est pas du tout.
Et c'est pas un planteur. On est d'accord, c'est pas un planteur, mais ça se rapproche beaucoup plus du planteur. Ben, c'est à base de jus de fruits, en fait.
D'accord.
Et donc, ça se rapproche beaucoup plus du planteur que du petit punch que.
Ah oui, parce que vous, en gros, dans votre punch, il faut pas de jus de fruits, quoi que ce soit.
Si. Enfin, non.
Ouais,
non,
il faut juste rhum, le sucre et le citron.
Ouais, voilà.
Ou alors le fruit, il est amené différemment.
Mais c'est aussi une question de comment tu l'as préparé, du rhum que t'as choisi, de. Enfin, ouais.
Et faut acheter le rhum qui coûte cher, pas le rhum.
Pas un rhum qui coûte cher, mais pas un rhum fabriqué. Euros, tu vois, tu regardes le truc, il y a marqué rhum des Antilles. T'es là, frère, on a des AOC, mon gars. Qu'est-ce que tu fais?
Surtout aux Antilles françaises, tu vois.
Rhum des Antilles.
J'adore.
Tu vois, c'est vin d'Europe occidentale. C'est à peu près ça.
Et pour moi, la sangria, c'est un peu le même délire. Enfin, c'est pas une réappropriation coloniale de je sais pas quoi. Mais en fait, je sais pas. Je saurais pas comment vous l'expliquer et je suis sûr que je vais me faire taper dessus en message ou dans les commentaires. Mais en gros, toute boisson alcoolisée ou tout cocktail, voilà, je vais vous faire genre un message de la direction.
OK.
Toute boisson alcoolisée ou tout cocktail qui est servi ou qui peut tenir dans un récipient de plus de 1,5 litre type voilà, saladier, bassine, tout ce que vous voulez, c'est une insulte. C'est une insulte à mon identité de young black king.
Choisis tes batailles, frère.
Mon problème c'est que je choisis pas mes batailles. Non, mais le punch, c'est important pour nous. Par contre, la sangria et le punch, c'est important pour nous.
Noté.
Un dernier papier, Mélanie.
Allez,
vas-y, resserre-toi. Un dernier pour la route.
Donne-moi le punch. Attends. Alors. Hop. J'espère que je vais piocher un bon truc. Bohemian Rhapsody.
Oh, j'ai une histoire pour
Bohemian Rhapsody. C'est François là que ça c'est quoi.
J'ai une histoire sur mesure. On disait tout à l'heure en plus qu'il y a des, vous savez, des histoires
des standards.
Des standards, ouais. Des histoires de socle commun. Vas-y, meuf.
Non, vas-y, je te laisse.
Fais-toi plaisir, je connais pas les paroles.
Tu connais pas les paroles. Tu viens juste de tuer à quelqu'un. Just kill the man.
Ouais, c'est ça.
Non, mais vraiment, hein, je.
Bon, vas-y, raconte.
Et les. Et les gens qui enfin moi j'ai en fait le truc c'est que j'ai aucune attache ni intellectuelle ni émotionnelle ou quoi que ce soit avec Queen. Enfin il y a quelques morceaux que j'aime beaucoup.
T'as notamment vu le film ou pas?
Non, j'ai pas vu le film avec Rami Malek. Mmh. On a dit beaucoup de bien.
Ouais, c'est pas mal.
J'aime beaucoup l'acteur.
Il y avait des défauts, le réalisateur notamment était un peu nul.
Et puis il y a des gros sabots dans le film, ouais, des trucs genre allô c'est le téléphone, vous avez un contrat. Oh ben dis donc ça tombe bien, on est tous à table, tu vois. Enfin c'est
ah ouais, genre ça fait pas très bien. Parfois le pas très vraisemblable. Ouais.
Mais je trouve que c'est un bon Freddie Mercury quand même.
Oui.
L'acteur.
Oui.
Bah d'ailleurs il a eu un Oscar. Mmh. Next.
Non mais je sais pas, il y a pas des morceaux comme ça que avec lesquels tous les gens
hexagones
ont grandi et vous avez pas grandi avec?
Je pense, enfin je sais pas, parce que quand même c'est assez gros et c'est
en fait c'est anglais,
c'est rentré, c'est rentré beaucoup. Pour moi c'est un peu de la musique de film en fait, ça dépasse un peu les genres musicaux, c'est-à-dire que c'est Queen, c'est vraiment pour moi de la musique de stade, de la musique de film,
ouais,
et c'est des espèces de gros tubes, voilà, qui dépassent un peu les trucs que tu vas écouter à la radio. C'est vraiment tu vas en bouffer que t'aimes ou pas parce que gros succès.
Ben voilà, vous traitez-moi d'un culte si vous voulez, mais par exemple, j'ai jamais écouté ne serait-ce que la moitié d'un album des Beatles ou de Bowie par exemple.
C'est bien quand même.
Et c'est, mais je suis sûr que c'est super en fait. Mais les gens qui vont me dire quoi, comment ça t'as pas écouté, ils sont un foutu de me citer trois morceaux de Patrick Saint-Éloi. Donc en fait niquez-vous, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment chacun ça. En fait il y a des morceaux
les
que
Beatles,
j'ai pas.
Patrick Saint-Éloi.
Non mais ce que je veux dire par là c'est que il y a des trucs qui font vraiment, enfin avec lesquels j'ai pas grandi, et je pense que ça a un rapport avec la race ou avec du moins voilà ce que je veux dire,
la culture,
l'origine culturelle pour faire simple.
Et donc quand il y a Bohemian Rhapsody en soirée,
ce qui s'est passé en fait,
le smiley blank face quoi.
Non, ce qui s'est passé en fait c'est que bon déjà voilà, Bohemian Rhapsody je n'ai jamais écouté ce morceau par exemple de mon propre chef en entier. Mm-hmm. Et c'est pas, enfin tu vois, je suis juste complètement passé à côté. Et en fait, mon whitest moment.
Enfin, t'as 45 ans maintenant, François. Il est temps de l'écouter.
Je l'ai écouté avant de venir à l'émission, honnêtement.
Okay.
Mais sinon, non, je, voilà. Et en fait, mon whitest moment en soirée. J'étais dans une soirée il y a deux, trois, peut-être quatre ans. Et,
tu faisais déjà le chip à l'époque. Donc, ouais, il y a, toi, trois, quatre ans.
Ouais, ouais, c'est ça. Et, voilà, je connaissais pas beaucoup grand monde dans cette soirée. Et, c'était une soirée étudiante. De quoi ?
T'avais pas d'amis.
non, mais j'étais venu accompagné d'une seule personne et du coup, ben, tu sais, quand ça commence à sociabiliser, t'es en mode seul tour, ben, bon. Et super soirée, super ambiance, très Erasmus et beaucoup de gens internationaux, etc. Il y avait trois noirs dans la soirée. Quand je vais en soirée, je compte systématiquement le nombre de noirs.
Vous avez fait le node ?
Non, on n'a pas fait le node. Mais j'ai discuté avec chacun et on a fait une sorte de node conversationnelle, ouais. Vraiment en mode, on est d'accord que, tu vois. Mais c'était vraiment une très bonne soirée, une soirée très sympa, voilà.
Ouais.
Moi, je suis assis sur le canapé dans le salon. Et il y a les premières notes de Bohemian Rhapsody. Donc, ce que j'ai appris a posteriori, que c'était Bohemian Rhapsody, qui ont commencé à jouer. Et là, il s'est passé un truc, comment dire? Tout le monde a commencé à péter un câble autour de moi, en fait. Ouais. C'est comme si les gens ont commencé à réagir comme si toi tu mettais BMF de Rick Ross,
ouais.
Tu vois.
Ou Rude Boy de Rihanna.
Voilà, ou comme si t'étais dans une soirée antillaise et que tu mettais le truc là. Tout le monde commence à Bambio. Tout le monde commence à péter un câble, monter sur les tables. Sur Bohemian Rhapsody, commence à faire, enfin c'est un morceau
toi,
très symphonique.
Tu connais pas la chanson, okay.
C'est un morceau très symphonique en deux temps, c'est ça,
ouais.
Avec des violons et des voix,
des changements
et c'est polyphonique,
il
y a plusieurs voix, comme ça, etc. Et il commence à partir et tout avec les violons et tout, il commence à péter des plombs et moi je suis là, je comprends pas ce qui se passe et je suis sur mon canapé, tu sais, je suis figé, tu sais, en mode
get out,
de fou, je suis en mode qu'est-ce qui se passe, etc. Alors que t'avais des gros bangers avant de rap même, et les gars ils bougeaient pas, hein, tu sais, ça c'est un truc aussi, j'ai remarqué quand tu vas dans les soirées où
t'es pas la majorité.
Désolé, je fais beaucoup de raccourcis, mais j'ai l'impression que les blancs dansent pas beaucoup en soirée, ou alors ils attendent d'être beaucoup alcoolisés. Voilà, c'est mon truc. Enfin, on a pas le même rapport à la danse. On est quand même d'accord.
Ouais, toi, tu dansais sur les bangers de rap.
Enfin, j'essayais du moins, mais comme j'étais seul tout, ça marchait pas trop. Mais ouais, voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ils étaient un peu froids jusque là, en mode cool. On est là, on trinque, etc. Avec de la sangria et puis du punch. Et puis là, d'un coup, bam, quoi. C'est leur, je te jure, c'est leur Niggas in Paris à eux, quoi. Et moi, je suis là, je finis l'histoire. Je suis là comme ça. Je suis figé. Et là, au fond du salon, genre de l'autre côté du salon, imagine, il y a un canapé qui est genre diamétralement opposé, symétriquement, tu vois, opposé à moi. Il y a l'autre Renoir de la soirée, si tu comptes pas le troisième qui était dans la cuisine à ce moment-là, en train de fumer sa clope, tu vois. Il y a l'autre Renoir de la soirée. Et lui, pareil, il est figé comme as. Et on est tous les deux comme as. Daniel Kaluuya, on est comme as.
Avec et une larme qui coule.
La sunken place, tu sais. Et on se dit, je le vois dans son regard qu'il est pareil, en fait. Il est en mode, qu'est-ce qui se passe? Et on se regarde en mode, on est d'accord qu'on sait pas ce qui se passe. Il est en mode, ouais, on sait pas ce qui se passe. Et en gros, je le connaissais, ce gars, tu vois, j'ai pas encore parlé. Je te jure, j'ai traversé le salon et je suis arrivé, je fais salut, je m'appelle François, comment tu vas? Et on a commencé à sympathiser comme ça, juste sur la base de wesh, on est d'accord que c'est quoi ce délire, tu vois? Et on a commencé à parler et le gars était très sympa, c'est un mec qui s'appelle David qui était un afro-italien, du coup un italien mais d'origine ivoirienne si j'ai pas de bêtises et très
tu
cool,
l'avais
mais...
ramené à un apéro
et je l'avais ramené à la grosse soirée du chip, tu sais qu'on a faite pour le jeu etc, et on a super cool le mec. Et ce qui est drôle, c'est que c'était à la fois, du coup, je pense que c'est mon whitest moment en soirée de ma vie. C'est aussi mon blackest moment, parce que du coup, on a eu cette espèce de truc connexion. En mode frère, tu vois.
Pour c'était super cool, mais pour un peu aussi déconstruire tout ce qu'on vient de dire, j'ai fait une interview de Chassol et j'ai fait je l'ai fait en deux parties.
Chassol qui est musicien, compositeur
martiniquais mais grandi ici.
Techno expérimental, enfin expérimental, ouais, pas techno mais ouais, expérimental, ouais, mais qui a travaillé avec Solange Knowles, donc le gars envoie du lourd.
Avec Frank Ocean, mais aussi avec Phoenix, avec Sébastien Tellier, etc. Et là, la deuxième partie va bientôt sortir et justement, je lui pose la question de est-ce que tu vois ce que ça veut dire de la musique de blanc. Et en fait, il rejette complètement ce concept-là.
Il a raison.
Et en fait, moi, ce que j'essayais de dire, c'est bien sûr que je veux pas enfermer les gens dans des catégories, parce que dans les trucs de musique noire, t'as des blancs, et l'inverse, musique identifiée noire, t'as des blancs, et inversement. Je parlais pas tellement
j'aime
des gens
Val,
qui font... Pareil. mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tellement dans les gens qui font la musique, c'est plutôt la réaction que vont avoir les gens, par exemple un blanc ou un noir lorsqu'il va rentrer dans une pièce où il y a de la musique qui est destinée à un grand public blanc et comment. Et il rejetait un petit peu tout ça en disant moi à la limite je vais faire une grande périphrase mais je vais jamais vraiment dire musique blanche, musique noire. Et en fait une des questions que je lui pose, c'est est-ce que ça t'emmerde que moi j'ai découvert ton travail en allant à des festivals de musique estampillés musique blanche, genre Electricity avec je sais pas, genre Métronomie et Sébastien Tellier qui passe devant la cathédrale
de musique blanche, ouais. Pas de musique noire, mais ouais. Moi, pendant toute mon enfance, mon adolescence et mon jeune âge adulte, quand j'étais en soirée en milieu majoritaire, en soirée, je veux dire, à la maison, tu sais, où t'as le Spotify et tu peux un peu prendre la musique à ton compte, dès que je commençais à vouloir mettre de la musique, entre guillemets, noire, c'était des récriminations, en mode « Ah non, pas
non,
ça !»«
Arrêtez,
tout,
là, c'est bon, mes Shakira !»
Ouais, voilà, et donc j'avais des espèces de morceaux, on parlait des standards tout à l'heure, encore une fois, du fait de limiter les genres, c'est à deux morceaux, bah selon les époques, j'avais droit qu'à deux morceaux de rap. Donc quand j'étais au lycée, le seul moment où je pouvais danser sur du son pseudo dancehall, par exemple, c'était sur « Hey Mama » de Black Eyed Peas. « Hey Mama », c'était le seul moment où je pouvais un peu shaker, sinon après, on était « Back to Dionysos », back to je sais plus quoi ce qui se passait à l'époque, etc. Back to the Spice Girls. Et c'est
tu
pareil,
checkes pas
en fait.
Sur les Spice Girls.
Mais non,
c'est ouais,
j'ai
pas dire, j'en ai marre d'entendre les Spice Girls. J'en ai marre de Wannabe. J'en ai marre. Non, mais les Spice Girls, c'est plus que Wannabe, frère.
Je vous ai écouté vous récriminer sur
non,
le
non mais moi je là, moi je suis plutôt pro Spice Girls.
Mais j'aime bien les Spice Girls, mais il y en a marre au bout d'un moment, en fait. Pourquoi ils s'en lâchent jamais? Pourquoi vous en lâchez jamais?
Il y a un standard, c'est tout.
C'est vrai.
Allez. Bon. Qu'est-ce qu'on aura retenu de cette conversation, si ce n'est ne mettez pas de jus de fruits dans votre ponche.
Non, mais c'est en vrai, c'est qu'on se plaint, mais en vrai, après un an et demi de pas de vie sociale, même ça me manque. Hein.
Allez, franchement.
Et les choses changent, le rap se démocratise. Aujourd'hui,
maintenant, tout le monde danse sur Aya Nakamura.
J'allais dire, voilà, Aya Nakamura, enfin, il y a de plus en plus d'artistes comme Aya, Taiki, Dadju, tout ça.
Imparables. Les mecs sont imparables.
Voilà, on en parlait à l'épisode d'avant. Les Gims aussi, qui sont quand même
ouverts des voies. Ça paie comme jamais. Qu'est-ce que ça a ouvert comme.
Damn white people love Gims. C'est un truc de fou, comment ils l'aiment dans tous les. Il avait cette rime, là, tu sais, il disait, je suis le Renoir
préféré de.
Je suis le Renoir préféré des gars en Auvergne ou un truc comme ça, des blancs en Auvergne.
Il a eu aussi cette rime Black Lives Matter, ça me concerne pas, mais bon.
Laissez-le prendre son chèque.
Ah bah, au moins il est venu prendre le chèque. Hein. Il
c'est
t'a dit, tu deviens pas le préféré en disant les vies noires comptent. C'est quoi les black owned business? Non.
Ah, il sera jamais, il sera pas iseux demain.
Non, c'est pas le business model.
Non.
Bon, eh bien sur ce, on va conclure. C'était le chip.
Yay.
On revient très vite, très rapidement.
Abonnez-vous. 50% des gens qui regardent la vidéo sur YouTube ne sont pas abonnés.
Voilà, donc abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Apple Podcast, abonnez-vous partout, partout, partout. En attendant, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, sur @lechippodcast. @lechippodcast. Voilà. Vous pouvez évidemment, évidemment, nous laisser une review sur Apple Podcast en nous mettant 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement.
Partagez-nous vos histoires.
Envoyez cet épisode à vos amis blancs.
Ouais, non mais partagez-nous en DM, en commentaire. C'était quoi vos soirées les plus entre guillemets, faut que je mette des guillemets maintenant, faut que j'arrête avec mes raccourcis, mais entre guillemets blancs, c'est quoi vos soirées les plus blanches,
c'est quoi vos
whitest moments, etc., en soirée ou dans des mariages, des trucs comme ça, ouais, on a envie de savoir, voilà, ouais. Votre opinion compte, votre avis compte, les vies noires comptent.
Je viens de me rappeler d'un truc qu'on n'a pas dit, mais franchement, on aurait pu le dire, mais c'est la musique de chez toi, ça, là, vas-y, vous avez jamais fait ça?
De quoi tu parles? Bah, ah oui, c'est ton quart d'heure, vas-y, danse, de chez toi.
C'est la musique de chez toi, ça.
Allez, bah, si, on l'a fait, au moment où il y avait Francky Vincent, tout ça.
Bon, et ben, merci beaucoup au Studio Majorelle pour cette émission réalisée par Adrien.
Et Aldric.
Et qu'est-ce qu'on a à dire de plus? La semaine prochaine, on se revoit, c'est ça?
Bah, c'est pas sûr, mais.
C'est pas sûr? Donc, peut-être pas.
Peut-être que le chip recommence à être peu fiable.
Non, mais moi, je pars en vacances.
Ah, bah oui.
Et toi aussi?
Ouais, moi aussi, mais je reviens.
On verra.
Et ben, d'ici là, bisous.
Bisous.
Bye.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.